Bonjour. Donc Florent Colotti, je dirais compositeur, musicien. Alors avant vraiment de rentrer dans du max et tout ça, j'ai plutôt un peu faire une espèce d'historique, en tout cas vous plutôt parler de Lutry à proprement parler, plutôt que de directement Patch Max et tout ça. Alors moi, comme a évoqué Vincent hier, moi j'ai un parcours de musique classique et quand je suis allé en classe d'électro, enfin les classes de composition de manière générale. Ok. Sinon j'ai pas laissé une petite voix. Du coup pour moi il m'a manqué quelque chose qui était la relation au geste, la relation à l'instrument et aussi une question de physique, de physicalité que je pouvais avoir dans la pratique instrumentale que j'ai eue en amont. Et pour moi il avait été essentiel de retrouver ça, enfin en tout cas de retrouver une énergie, une physicalité. Et j'ai commencé notamment à travailler sur la question du geste. Donc j'ai travaillé plusieurs années avec le méta-instrument de Pucemuse. Et au bout d'un certain temps, je me suis dit, la question du geste, elle est très intéressante à développer et il y a plein de choses à faire. Mais pour moi, il y avait une nouvelle problématique qui était arrivée, c'était que, entre guillemets, l'ordinateur pouvait tout faire. Et pour moi, il y avait une problématique là-dedans, qui était que quand je jouais avec ce méta, je pouvais autant, dans le même concert, j'ai envie de dire, jouer un son de pluie, qu'un son de saxophone, qu'un son synthétique. Et pour moi, là-dedans, il y avait une problématique qui était... qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est jouer d'un instrument? Qu'est-ce que... Voilà. Donc j'ai questionné cette problématique-là et ça m'a, je dirais, amené à dire jouer d'un instrument, c'est amener un certain nombre de contraintes, notamment une contrainte d'un geste, une contrainte d'un son, une contrainte de ramener à des éléments, j'ai envie de dire assez restreints, comme la tessiture. Le caractère du son, le spectre et tout ça. Et j'ai commencé à travailler sur cette problématique-là, ce qui m'a amené à créer cet instrument-là qui s'appelle le E-string et du coup qu'un instrument où je pilote des hibos. Là, c'est purement des hibos, donc des archets magnétiques qui mettent la corde en vibration sans contact. Donc, c'était un peu une première étape de... je tactionne les archets, ça fait vibrer la corde en flux continu ou pas, selon les commandes qu'on envoie. En tout cas, pour moi, ça a été une première étape de poser un objet avec ses contraintes et comme tout musicien, en fait, de développer... une pratique avec cet instrument et de développer aussi un caractère musical. Parce que, du coup, y a des choses qu'on peut pas faire et il y a plein de nouvelles choses qu'on peut produire qui amènent aussi en tout cas une énergie au niveau de la. Enfin, en tout cas, moi qui m'a amené ces contraintes m'ont amené une énergie pour la création. Donc ça m'a amené à continuer tout ce travail-là autour des instruments, tiens, il y a ce truc-là, qu'est-ce que ça veut dire si un objet avec des cordes, au lieu d'utiliser des archets magnétiques, je viens taper les cordes, les frotter, les gratter. Du coup, entre guillemets, pour moi, c'est ouvert un espèce d'univers musical un peu particulier, qui peut s'apparenter à une espèce de peut-être de musique concrète, peut-être de musique en tout cas instrumentale. Et actuellement, je pense que je me retrouve un peu dans cette balance où la musique que je fais, je dirais une espèce de musique concrète, mais les jouer en live, Puis en même temps, c'est l'instrument, le E-string, il est amplifié comme une guitare. Dessous les archets, j'ai des micros magnétiques comme sur une guitare. Et j'ai une sortie par micro, ce qui fait que je peux travailler chaque corde indépendamment, plus plusieurs micro-contacts à l'intérieur de la caisse, ce qui fait que juste, enfin, cet instrument-là, j'ai sept sorties, sept entrées, ce qui me permettait autant aussi de jouer entre le son de micro-magnétique et le son de micro-contact n'ont pas grand-chose à voir. Et du coup, voilà, de développer un univers musical via cet instrument-là. Et puis de rajouter des effets qui permettaient aussi de transformer le son. Voilà. Ce qui m'a amené à expérimenter plein d'autres choses, et notamment à en arriver là, voilà, qui est le projet qui s'appelle Les Corps Mécaniques, où du coup j'ai, 16 ou 17 objets sonores à l'intérieur, du coup composé par famille. Donc j'ai peut-être... Faut que je prenne ça. Bon, on va voir si j'arrive. Du coup, donc il y a des instruments de percussion où je mets des vibreurs. À la base, c'est des objets de massage qu'on achète à Nature et Découverte. Voilà, hyper con, et ça marche super bien. Donc ça permet de mettre la peau en vibration. Et du coup, généralement, l'instrument de percussion, on tape dessus, ou on vient le frotter avec des rollerballs, ce genre de choses. Et là, ce qui me paraissait très intéressant, c'est qu'on pouvait vraiment faire vibrer la corde. Ça fait une espèce de vibration comme ça. Et puis avec l'informatique, évidemment, avec les commandes numériques qu'on va pouvoir produire, on va pouvoir... apporter tous des principes de morphologie avec des enveloppes, des principes d'attaque, ce genre de choses. Donc on va pouvoir avoir une composante continue, mais aussi une composante, je dirais, percussive. Donc ça, c'est des tubes en PVC sur lesquels je mets une membrane derrière. Et quand je dis une membrane, c'est une peau, quoi. Et j'ai un moteur qui tourne et ça va venir taper la surface. Le moteur donc, que vous voyez là, il y a une petite tige dessus qui vient taper et je vais pouvoir déplacer le moteur pour l'approcher plus ou moins, ce qui va me permettre de changer, de mordre plus ou moins sur la peau et de changer le timbre. Ça, c'est des cymbales et je viens frotter le bord de la cymbale, ce qui fait que je peux avoir, selon la vitesse, donc c'est un moteur, selon la vitesse de rotation du moteur, je vais pouvoir faire tic 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 ou vraiment aller très vite et avoir un flux continu, et ça va faire un flux continu assez caractéristique d'une timbale, mais comme si on tapait très rapidement dessus. Ça n'a rien à voir avec le côté archet. Ces choses là, c'est un peu le principe d'un caron, c'est une boîte en bois et j'ai un percuteur à l'intérieur, vraiment percussif sur du bois. Il y a deux cordes en métal, j'ai un moteur qui tourne avec un fil, donc ça, et je vais pouvoir l'incliner plus ou moins, ce qui fait que je vais venir mordre plus ou moins la corde, enfin quand je dis mordre, en tout cas rentrer plus ou moins dans la corde, et puis voilà, je peux contrôler la rotation du moteur, donc lui dire fait tic 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 ou tourne en continu pour avoir un flux. J'ai 10 moteurs et là du coup c'est des cordes en nylon et ça fait un espèce de petit geste de percussion très proche du, je dirais c'est un peu inspiré du cymbalum, on vient taper avec une baguette comme ça. Donc là c'est vraiment un ting ting ting, un moteur qui fait un espèce de quart de tour pour venir taper la corde. Et les deux instruments sur le côté, plus le grand haut. Donc ça, c'est vraiment c'est des instruments archets magnétiques, qui sont un peu la continuité du E-string, alors qui techniquement et au niveau sonore, je dirais presque ont rien à voir. Mais voilà, donc j'envoie des commandes et ça fait vibrer la corde sans que je les touche. Ce que j'ai vous évoqué hier, je fais une petite parenthèse avec hier, ce que je vous ai évoqué hier, donc tout ça c'est sur scène, et moi je ne suis pas sur scène, je suis dans le public, en train de jouer, parce que tout est joué en direct, oui et non, parce que du coup je ne peux pas jouer tous les instruments en même temps, et du coup à certains moments j'en joue certains, à d'autres moments, j'en joue certains à des moments, puis après je vais avoir des choses écrites que je vais... déclencher, enfin activer pour créer une évolution dans le temps. Alors, pourquoi je... Déjà, moi, je me... Déjà, quand... Bon, moi, c'est un petit orchestre pour moi, et je suis un peu le chef d'orchestre qui va activer tous ces instruments en direct. Et moi, ce qui on a fait des essais, et moi d'être sur scène et être derrière un ordi, tout ça, ça apportait pas grand-chose. Et c'est pour ça qu'on a décidé de, je dis on parce que du coup, je travaille avec une scénographe et un créateur lumière. Donc sur ce projet-là, il y a tout un aspect visuel aussi qui se développe. Et en tout cas, que moi je sois sur scène derrière un ordi, en fait, au bout d'un moment, on s'est dit, ça apporte pas grand-chose, et même c'était beaucoup plus intéressant d'avoir que les instruments et qui est voilà quelque chose qui se magnifie comme ça. Et encore une fois, moi, ce que je trouvais important, c'était que on se détache aussi de l'humain. Il y a rien à voir. Tout est que des petits mécanismes et tout ça. Donc on voit rien qui bouge. Il y a pas de choses visuellement qui ressortent. Et du coup, c'était plus intéressant de travailler justement sur des profondeurs avec la lumière et aussi que on lâche prise et on se laisse porter par le sonore. Parce que de toute façon, alors j'essaie de faire la technologie transparente. Il y a plein de câbles, mais en tout cas, il y a aucune lumière de petits circuits qui clignotent, tout ce genre de choses. Donc en tout cas, c'était vraiment pour moi plus important qu'on de pas mettre en valeur quelque chose qui va donner à l'auditeur une envie de comprendre ce qui se passe. En tout cas, d'essayer de chercher le fonctionnement. Voilà. Du coup, voilà ce petit orchestre. Donc ça, c'est un peu le travail du, je dirais, entre 10, 12, ouais, une douzaine d'années à fabriquer, à essayer des choses et ainsi de suite. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Je ne vais pas dire que je m'inspire, mais en tout cas, je prends souvent référence avec Luigi Russolo, qui, au début du siècle, avait créé plein de petits instruments comme ça qu'il animait. Et c'est vrai que moi, je vois un peu mes dispositifs comme ça. C'est un peu des petits objets. Et puis, on va venir interagir dessus, alors, dans mon cas, à distance. En tout cas, c'est un peu l'idée de composer un espèce d'orchestre avec différents instruments. Et c'est vrai que du coup, dans ce projet-là, j'ai un peu réfléchi à créer des familles et que chacun ait un peu sa caractéristique sonore, en tout cas, pour me dire, tiens, des choses qui vont être plutôt percussives et des choses qui vont être plutôt mélodiques ou en tout cas avec des hauteurs précises. Certains dans le grave, certains dans l'aigu, un peu plus dans l'aigu. Voilà, c'est un peu un petit orchestre. Je vais vous faire écouter un petit extrait. Enfin, deux petits extraits, juste pour vous ayez une idée de ce que ça peut donner. Thank you. Donc ça, c'est plutôt les instruments, j'ai envie de dire, bruts. Et après, ça peut aller dans d'autres contrées. Là, j'amène un peu des transformations. Donc pour continuer là-dessus, donc je vais vous parler un peu plus du projet Alet que vous avez vu hier. Donc du coup autour où j'ai développé avec Romain, donc mon frère, qui lui à la base est sonneur traditionnel, on va dire. Un dispositif autour de la cornemuse de la boue, qui s'appelle la boue. Donc concrètement, comment ça marche? Avec Ableton et Max for Live, je vais donc tout en OSC pour aller contrôler les instruments. En même temps, je vais contrôler une carte électronique dans l'instrument et un gradateur qui va permettre de piloter une pompe à air qui envoie de l'air. Entre la pompe à air et l'instrument, j'ai une électrovanne qui va me permettre de couper, fermer le flux d'air. Voilà. Et toutes mes commandes viennent depuis des iPads et Lemur, qui malheureusement n'est plus téléchargeable actuellement. J'espère que ça va revenir parce que j'ai beaucoup de choses sur Lemur. Alors pourquoi ces choix? Alors déjà le fait de pouvoir contrôler la pompe à air, ça me permet de contrôler la quantité d'air envoyé. Je vais faire ça. Du coup, je vais pouvoir contrôler l'air. L'électrovanne va me permettre d'ouvrir, fermer ce flux d'air, de créer entre guillemets des articulations, et ça va me permettre de donner différentes caractéristiques au son. Le débit d'air étant assez important sur la cornemuse parce que dans le principe de la cornemuse, c'est-à-dire qu'on envoie l'air, il ne se passe rien, et tout d'un coup, il y a un débit assez fort, le bon débit, et la hanche part. Donc c'est un peu tout ou rien, et mine de rien, c'est quand même chiant à régler. Et surtout que moi, j'ai enlevé la poche, donc la poche fait quand même un peu tampon pour réguler l'air. Et c'est pour ça que je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai des espèces de petits trucs bleus là sur mes dispositifs. En fait, tout bêtement, j'ai fait un trou, et puis c'est un morceau de ballon de baudruche qui permet de faire une espèce de soupape de décompression. C'est s'il y a trop d'air qui rentre, ça colle les hanches. Enfin, la hanche se colle. Donc ça fait un peu sas de décompression pour essayer d'atténuer le fait qu'elle va coller, ce qui peut être chiant. Donc les murs qui me permettent de contrôler. Pourquoi les iPads et pourquoi les murs? Alors, tout simplement, quand on construit un instrument, il n'y a aucune règle et il n'y a aucun... qu'il n'y a aucun truc, j'ai envie de dire, adéquat. Donc le fait de pouvoir utiliser les murs qui permet de faire sa propre interface me permettait de composer en fait une interface de contrôle en fonction des instruments. Donc c'est quand même plutôt pratique. Et puis aussi, bon, il est quand même super, super efficace. On peut cacher des choses, faire apparaître des choses, on peut se renvoyer des informations. Donc je peux créer autant des allers-retours, moi, d'envoyer des commandes, mais aussi déclencher des choses avec les murs. Et les paramètres vont se reconfigurer sur l'iPad. Ce qui fait que enfin, les deux modes, ça fonctionne en parallèle et je suis toujours au courant de qu'est-ce qui a été réglé et où j'en suis, quoi. Voilà. Et du coup, sur les murs, on peut autant fonctionner en OSC qu'en MIDI, ce qui est assez important. Enfin, en tout cas, ce qui est pas mal. Ce qui va permettre de faciliter certaines assignations et puis d'autres qui fonctionnent moins bien en MIDI, ou en tout cas, on aurait besoin de faire des réglages un peu particuliers. Du coup, j'utilise OSC. Je vais vous montrer quelque chose sur le patch, enfin, en tout cas sur la session. Donc, dans mes sessions, j'ai toujours une porte comme ça, OSC. En fait, j'ai un objet. Oui. J'ai toujours une piste comme ça, j'ai un objet spécialement OSC, parce qu'en fait tout va arriver là et repartir depuis là, parce qu'en fait assez bêtement, ah mince, ça a enlevé le truc, voilà, assez bêtement je fais une passerelle comme ça, donc je vais recevoir l'OSC et je vais formater le message, grosso modo je vais enlever les slash pour pouvoir faire du sans fil qui va permettre d'être envoyé dans tout le patch. Donc c'est assez con, mais c'est un principe assez efficace, ce qui fait que j'ai une seule entrée, et après sur mes objets, je vais avoir ce petit intermédiaire qui va permettre de faire l'arrivée et le retour vers l'iPad. Voilà, donc ça arrive là, je formate le truc, je l'envoie avec les forwards. Là, hop, ça reçoit, j'ai une entrée et une sortie, ça reçoit, je lui dis tu t'appelles comme ça en entrée, tu t'appelles comme ça en sortie, et tu vas vers lui. Et puis j'ai cette petite chose là où je dis bon, l'adresse IP de l'iPad ou d'autres choses éventuellement, c'est ça, et ça le renvoie. Voilà. Et aussi un truc assez con, enfin, en tout cas, qui a été une problématique pour moi, qui est quand on fait du MIDI, quand on fait des allers-retours, quand on a des automations, elle ne se casse pas. C'est-à-dire que ça marche. Donc j'ai essayé de trouver des façons de faire qui me permettaient en OSC, que quand je faisais une automation, en tout cas, il y avait cet aller-retour, qu'elle ne se cassait pas. Quand je dis casser, c'est que du coup, il y a ce petit truc là en haut qui dit le paramètre a changé, l'enveloppe ne va pas continuer à être suivie. Et du coup, au lieu de renvoyer directement le message, je change les couleurs sur l'iPad, ce qui fait que je sais où j'en suis sans casser l'automation. Voilà. Et après, mon patch, alors je vous montrerai peut-être plutôt là, qui est là. Alors conceptuellement, c'est assez simple. Là, j'ouvre la vanne. Là, je monte l'air. Voilà, et ça se met à sonner. Alors, ce que je vous disais, il y a. Voilà. Là, la cornemuse sonne, mais c'est pas le son. Enfin, c'est pas sa hauteur. Voilà. Là, elle est à sa hauteur. Donc, il y a vraiment des seuils comme ça. Donc c'est ça qui n'est pas, enfin je dirais en tout cas pour moi qui n'est pas à la base sonneur, ça qui n'est pas toujours évident, c'est d'arriver à trouver voilà, des points de justesse qui vont permettre d'avoir en tout cas rapidement et facilement la cornemuse qui va sonner. Et après cette partie-là qui va me permettre de manipuler les servomoteurs pour avoir la note que je veux. Après concrètement, tout bêtement, ah, c'est pas ça. Donc là, j'ouvre la vanne, je peux lui donner une pulse. Voilà, je peux couper le flux, baisser l'intensité, là ça sonne plus, et après changer les hauteurs. Et évidemment, ce qui est intéressant, c'est qu'avec un ordinateur, on a une puissance de calcul. En tout cas, on peut se permettre des choses que un humain ne pourrait pas forcément faire. Et du coup, comme par exemple aller très vite. Et puis, je vais faire comme ça. Et puis après, pouvoir créer des espèces de patterns avec des motifs. Donc, les principes assez simples, c'est vraiment d'avoir trois commandes. Une qui va permettre de commander l'air, l'autre le flux, enfin en tout cas de pouvoir ouvrir et fermer le flux d'air, et l'autre partie de commander en fait la hauteur qu'on veut. Dans le patch, je peux autant aussi écrire des notes, c'est-à-dire que dans mes objets, je peux avoir une écriture comme ça là, ou autant avoir des choses qui sont générées directement par Max. Globalement, voilà.
On peut prendre le temps d'une question rapide, si vous en avez une. Sinon, il y a tout le temps d'en discuter avec Florent. J'imagine qu'il sera ravi de continuer d'en parler. Ouais. Tiens, il y a un micro juste derrière toi.
Moi, je voulais savoir si dans la pièce que tu nous as montrée en photo avant, tu avais la problématique qu'on entend un peu les moteurs. Et si oui, est-ce que c'était un parti pris qui te plaisait un peu ou...
Alors c'est pas un parti pris, c'est que des fois on peut pas faire autrement. Donc régulièrement j'en joue. Enfin ça peut faire partie de la musique quoi. Donc comme hier où tu vois quand on a commencé il y a le moteur qui s'active d'abord. C'était aussi une manière à Romain qui va rentrer là-dedans de lui donner le tempo en fait aussi. Donc oui, généralement j'essaie qu'il y ait quand même le moins de bruit possible, mais ouais, les moteurs peuvent produire du bruit et il faut jouer avec quoi.
Super, merci beaucoup pour cette présentation. Merci.